Alors bonsoir, bienvenue à cette nouvelle semaine d'études dans la parole du Seigneur avec le thème de servir en temps de défi. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que la semaine jusqu'à présent elle était bonne, pleine de grâce, pleine de paix et que vous portez du fruit en abondance pour le Seigneur. On est en train de parler de tout ça justement depuis quelques semaines. Et on va poursuivre un petit peu plus, on va aller un peu plus loin, dans le fond, cette semaine. Il y a un peu plus de matière, on va essayer d'aller quand même assez dans un rythme assez soutenu, mais toujours en prenant le temps de bien expliquer ou de bien présenter la parole de Dieu, parce que c'est un enseignement, donc il faut s'assurer que nos bien-aimés comprennent bien la leçon et la matière, ils comprennent tous. Les bonnes habitudes, les bonnes décisions suite à cet enseignement-là. Donc, merci d'être là et merci pour ceux qui sont là en presque direct, parce que dans le fond, je suis en train de préenregistrer, mais qui sont là le mercredi soir et d'autres qui vont peut-être écouter ce vidéo un peu plus tard à une autre date. Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et que sa parole soit bénissante dans vos vies. Donc, on va prier, puis par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, merci pour la vie, pour ta grâce, Seigneur, qui est infinie. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice si merveilleux, Seigneur, à la croix. Seigneur, où tu as pris, Seigneur, sur toi notre condamnation, notre vie de péché, Seigneur. Et tu as payé le prix, Seigneur, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons sauvés. Seigneur, nous nous remettons à toi, Seigneur, aujourd'hui. Puisses-tu nous parler? Nous enseigner, nous convaincre, nous instruire, nous corriger même. Seigneur, nous remettre sur la bonne voie, nous restaurer. Que ta parole ne reste pas, Seigneur, sans effet, Seigneur, dans nos vies. Je te demande, dans le précieux nom de Jésus, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Donc, dans le fond, dans la poursuite de l'étude de l'Évangile selon Marc, où est-ce que, dans le fond, depuis 45 semaines maintenant, on a pris cet Évangile-là parce que c'est l'Évangile qui présente Jésus comme le serviteur. Et puis, étant donné que nous sommes appelés à servir, eh bien, quel meilleur modèle à employer que celui de Jésus? Et en plus, d'un Évangile qui donne cet angle de vue-là, qui présente Jésus depuis cet angle de vue-là. Donc, on est rendu à Marc au chapitre 11. Dans les événements dans le fond, qui précèdent la crucifixion, c'est lorsque Jésus fait son entrée à Jérusalem. Et plus précisément, lorsque Jésus rencontre le figuier. Le figuier qui avait des feuilles, avait beaucoup de feuillage, qui était attrayant, qui était invitant, mais que, il n'y avait aucun fruit. Et que Jésus porta un jugement sur ce figuier-là avec, dans le fond, une leçon spirituelle pour nous. Et de là, on a parlé ces dernières semaines, dans le fond, par rapport aux fruits et tout ça. Et aujourd'hui, bien, écoutez, on va y aller. On va dès maintenant partager l'écran. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Donc, oui, porter du fruit. Aujourd'hui, on va parler de vivre selon l'esprit. Lorsqu'on s'est laissé la semaine dernière, on était rendu en Galate, où est-ce qu'on parlait des œuvres de la chair, l'esprit, la chair versus l'esprit et tout ça. Donc, je vous invite à visionner le vidéo de la semaine précédente, où est-ce qu'on met la base un peu sur c'est quoi porter du fruit et de quel fruit on parle dans le fond. Quel est le fruit que le Seigneur recherche? Ici, on va quand même faire une petite synthèse des dernières semaines. Donc, comme je vous disais, on avait arrêté à Marc chapitre 11 et au verset 13. On voit que Jésus s'approche d'un figuier qui avait des feuilles, puis alla voir s'il trouvait quelque chose. Il s'en est approché, trouva qu'il n'y avait que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Puis on avait expliqué que, oui, ce n'était pas la saison des figues, mais déjà au printemps, les figuiers donnaient un petit fruit, une figue plus petite. Et il y avait déjà une possibilité de manger, dans le fond, de fruits du figuier. Et Jésus alla voir s'il y avait ce fruit-là, si c'était la figue Bréba, et il n'y en avait pas. Donc, ce qu'on avait sorti comme leçon pour nous aujourd'hui ou dans ce qu'on vit présentement, c'est que nous sommes le figuier. Et donc, nous sommes appelés à porter du fruit et pas juste avoir une belle apparence. Pas juste à venir à l'église bien habillé, le dimanche, on s'habille bien, on a la robe, le vêtement, le veston, la cravate, on est bien payé, on s'est brossé les dents, parfait. On a la Bible sous le bras et on connaît tout, on fait tout ce qu'on, le décorum qu'on connaît, le protocole qu'on connaît d'un chrétien. Non, c'est pas ça. Porter du fruit, c'est pas ça. Être chrétien, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, nous sommes appelés à porter du fruit. Et la raison pour laquelle on s'arrête ici, on s'est arrêté ici ces dernières semaines, c'est que quand il y a quelque chose d'essentiel dans la parole de Dieu, il faut l'étudier. Il faut s'y concentrer. Il ne faut pas juste passer par-dessus. Et je pense que ce sujet-ci, on ne peut pas passer par-dessus. Parce que même dans la vie de service, et on va voir le lien avec la vie de service, c'est intimement lié. Ce qu'on a vu aussi, c'est que pour porter du fruit, il faut un demeurer en lui, demeurer dans sa parole et demeurer dans son amour. Et ça, on l'a vu avec la synthèse qu'on avait faite de Jean chapitre 15, donc lorsqu'il y a le cep et le sarment. Et par la suite, on était allé aussi dans Galates, parce que là, bon, on parle de porter du fruit, donc être en lui, être dans l'esprit. Et Galates parle justement de cette différence-là entre la chair et l'esprit. Et on avait vu que Paul donne cette recommandation aux Galates de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la chair? Ben, c'est tout ce qui, dans une personne, s'oppose à Dieu et sa volonté. Okay? La chair, c'est pas juste tout ce qui a à caractère sexuel ou à caractère sensuel. C'est tout ce qui est dans une personne et qui s'oppose à la volonté de Dieu. Okay? Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui est relatif au corps, aux différents sens que le corps a pour percevoir les choses là, dans la vie et autour de lui. On a vu également que il y a les œuvres de la chair et il y a le fruit de l'esprit. Et pourquoi il n'y a pas les œuvres de l'esprit? C'est que le fruit est pas dans l'œuvre. On pourrait bien faire des plein d'œuvres et pas avoir le cœur à la bonne place, pas avoir la bonne motivation. Et donc, le fruit de l'esprit se trouve à l'intérieur. Et Jésus même, à un moment donné, il dit, il y en a plusieurs qui diront, mais Seigneur, en ton nom, j'ai chassé des démons, Seigneur, en ton nom, j'ai fait des miracles. Donc, en ton nom, j'ai fait des œuvres que d'habitude, dans un contexte chrétien, on l'associerait à une œuvre de l'esprit. Et là, Jésus lui dit, ben, à ces gens-là, je leur dirais, je vous connais pas hors de ma vue. Donc, les œuvres ou le fruit ne sont pas dans les œuvres. Le fruit de l'esprit n'est pas dans les œuvres, le fruit de l'esprit est en nous. Et porter du fruit, c'est donc la liberté, c'est d'avoir cette liberté-là de pouvoir décider, de penser et d'agir selon la nature de Dieu et selon la volonté de Dieu. Donc voilà ce qu'on avait vu, grosso modo, ces deux, trois dernières semaines, ces deux dernières semaines, je dirais. Et là, on va rentrer vraiment dans qu'est-ce que la chair, l'esprit, tout ça. Là, on va essayer de mettre certaines références pour nous, pour qu'on puisse bien comprendre tout cet aspect-là. Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que la Bible nous parle de trois types de personnes, ou selon comment c'est traduit, on parle d'hommes. Mais c'est sûr que lorsqu'on parle d'hommes, on parle d'êtres humains, donc ça inclut la femme. Donc, il y a trois types de personnes, trois types d'êtres vivants. Et lorsqu'on va dans 1 Corinthiens chapitre 2, et qu'on lit la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3, voilà ce que nous trouvons, nous allons lire. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Par la suite, au chapitre 3, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Ici, on voit vraiment les trois types de personnes que j'ai même mis en jaune. L'homme animal ou l'être naturel, l'être humain naturel dans sa nature humaine, l'être spirituel et l'être charnel. Trois types de personnes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, dans le fond, c'est que il existe de grandes différences, de grandes différences entre ces trois types de personnes-là, et que chaque être humain, ben, fait partie d'une de ces catégories-là. Donc, chaque être humain s'identifie à un de ces types. Et probablement, dans ce qu'on va présenter, vous allez vous sentir plus près d'une définition que d'une autre. Ce qui est important aujourd'hui, c'est dans ce qu'on va discuter, pensez pas à l'autre. Pensez pas à votre voisin, à votre bien-aimé. Pensez même pas à votre époux, à votre épouse, en disant, ah oh, ouais, ça correspond vraiment à toi. Non, non, non. Analysons ceci pour nous. Okay? Passons à travers cette leçon pour nous, pour notre propre bien, et avant de commencer à pointer du doigt, je pense que c'est un travail qui est important de le faire pour soi-même, premièrement, avant de toute autre étape, là. Prenons-le pour nous-mêmes. Donc, on va commencer avec l'être animal ou naturel. L'être animal, c'est l'homme ou la femme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas été sauvé, qui n'a pas eu la rencontre avec Jésus-Christ, qui a pas donné sa vie au Seigneur. Et donc, c'est une personne qui, selon Éphésiens, chapitre 2, dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc, une personne qui est morte. Une personne qui est séparé de Dieu, qui est condamné, qui vit une vie dans laquelle, sur l'éternité, ça va être une condamnation loin de la présence du Seigneur. Une personne qui est dans le péché. Vous remarquez ici, il dit, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lequel vous marchiez. Et on ne ça dit pas par lesquels vous marchiez. Donc, ici, on nous dit que c'était une vie dans le péché. Le péché contrôlait, le péché était tout de la vie de cette personne-là. Et donc, une vie dans le péché est une vie aussi dans la chair, parce que c'est à travers la chair que le péché se manifeste et le péché vient prendre contrôle, dans le fond, de la vie de la personne. Et là, j'ai fait un petit dessin, dans le fond, un petit, je sais pas, diagramme, je sais pas comment vous voulez le présenter, un petit tableau, c'est pas un tableau, c'est pas une tortue non plus, juste au cas où, ça ressemble à une tortue, mais c'était pas voulu, mais c'est juste pour vous présenter, dans le fond, un peu les différences, okay, entre chaque personne. Donc, une personne, donc l'être animal, l'être qui est dans le péché, on a mis la couleur rouge, ok, et on va voir un peu ce qui se passe au niveau du corps, des émotions, des pensées, de la volonté et de l'esprit. Mais une chose est sûre, c'est que cette personne-là, c'est la chair qui contrôle et le péché qui contrôle sa vie. Au niveau de l'esprit, ben, la Bible dit qu'ils sont spirituellement morts. Okay? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Au niveau du corps. Au niveau du corps, Paul parle aux Romains et parle il fait la recommandation aux chrétiens que ce corps soit pas un instrument pour le péché, mais soit un instrument pour la justice, soit un instrument pour le Seigneur. Donc, quand on n'est pas dans le Seigneur, quand on est dans le péché, ben, le corps devient tout simplement un instrument pour le péché. Et devient tout simplement l'outil qui est utilisé pour pécher, pour accomplir les passions de la chair et pour, dans le fond, vivre cet esclavage qu'il y a sous le péché. Au niveau des émotions, eh bien, on est esclave de la peur. Si on est esclave du péché aussi, on est esclave de la peur. Et il y a quelques semaines en arrière, on a parlé en long et en large de la peur et de tous les autres sentiments et émotions et pensées qui viennent avec la peur. On avait vu que l'origine de la peur dans la nature humaine vient avec la chute de l'homme. Lorsque Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés parce qu'ils ont eu peur. Premier sentiment, première émotion qui est décrite dans la Bible, qui touche l'être humain, c'est la peur. Et dans Romains, il dit, ben, il ne nous a pas donné un esprit d'esclavitude pour que nous soyons encore sous la peur, mais il nous a donné un esprit d'adoption. Donc, la peur est une forme d'esclavage. Et donc, au niveau des émotions, ce qui contrôle les décisions, les émotions, les pensées d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur, c'est la peur. Et tous les autres sentiments qui viennent avec. Au niveau de la pensée, Éphésiens chapitre 4, verset 18, au fait, à partir du verset 17, vous verrez que Paul fait vraiment une énumération de tout ce qui était la vie autrefois. Et il dit, ben, ne soyez pas comme les païens, ne vivez pas comme vous étiez comme ça autrefois, ne vivez plus comme ça. Et là-dedans, il dit que l'intelligence était obscurcie et que ces gens-là étaient étrangers à Dieu. Et parce qu'ils ont une intelligence, une pensée qui est obscurcie, eh bien, tout ce qui est de Dieu leur est complètement étranger. Ça, on le voit de façon claire dans le monde. Okay? Et au niveau de la volonté, ben, toute la volonté, étant donné qu'ils sont spirituellement morts, étant donné que le corps est un instrument pour le péché, étant donné qu'ils sont esclaves au niveau émotif et qu'au niveau de la pensée, ils sont obscurcis, mais toute leur volonté est guidée, contrôlée par la chair, et donc ce qu'on voit dans leur vie, ce sont les œuvres de la chair, tout simplement. Donc voilà en gros l'être animal et l'être naturel, celui qui n'a pas été transformé, renouvelé par Christ. Voilà un peu les gros éléments ou les points importants qu'on peut ressortir de ce type de personne-là. Et dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que l'être animal, c'est une vie dans la chair, donc dans le péché, complètement dans le péché et complètement également dans la chair. Si on fait une petite parenthèse et qu'on parle des œuvres de la chair, parce que là, on dit, ben, la personne qui est dans le fond, qui n'est pas convertie, qui n'a pas été transformée, vit dans la chair et donc pratique les œuvres de la chair, ben, il faudrait peut-être aller voir un petit peu plus c'est quoi, de quoi que toi nous parlons. Donc, Galates chapitre 5, versets 19 à 21, dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, donc c'est-à-dire sont claires, sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, l'homme naturel n'hérite point le royaume de Dieu. Et il est étranger complètement à la vie de Dieu. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu parce que il est dans le péché, il est dans l'obscurité, il est spirituellement mort. Okay? Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces deux versets-là? Ben, ces trois versets-là, ben, on peut prendre certaines catégories de péchés, je dirais, ou d'œuvres de la chair, mais de toute façon, ce sont des péchés quand même, et sortir quelques éléments. Donc, si on prend la liste, on voit qu'il y a une catégorie qui sont associées à la sexualité ou à la déviation, l'immoralité sexuelle, et donc l'impudicité, qui est l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution, qui dans le contexte biblique fait référence au libertinage, à la luxure sans bride, sans limite, sans contrôle. Il y a le péché religieux aussi, ou plutôt, ouais, ou spirituel, religieux, l'idolâtrie Et dans l'idolâtrie, il y a aussi tout ce qui est religieux, donc tout esprit religieux, parce que pour certains, la religion, c'est une idole. Ils adorent. Et même dans le monde chrétien, des gens qui adorent plus la tradition, sont plus proches de la tradition, sont plus proches de ce que pour eux est la religion qu'est Jésus-Christ. Et donc également la magie, donc l'occultisme et toutes ces choses-là qui viennent avec. Des péchés qui sont reliés aux relations les uns envers les autres. T'sais, on pêche pas juste contre Dieu, on pêche contre notre voisin, on pêche contre notre bien-aimé, on pêche contre des gens. Aussi, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, ça veut dire toutes les différentes manifestations de la colère, les disputes, les divisions, les sectes. Ça mène large, là, les œuvres de la chair, là, ça va loin, ça. Ça commence à nous atteindre un petit peu, là, hein? Ça commence à nous parler. Péché matérialiste, au niveau de l'envie, lorsque Paul parle de l'envie, bon, il y a là tout ce qui touche la convoitise, tout ce qui touche l'avarice aussi, ce sont des choses qui sont en lien avec tout ce qui est matérialiste et des péchés de complaisance, l'ivrognerie, les excès de table et tous les autres excès, donc toutes les autres choses semblables rentreraient dans cette catégorie-là. Donc, voilà, un peu si on peut décortiquer, si on peut catégoriser, disons, les œuvres de la chair, voilà un peu ce qu'on retrouve. Et encore là, bien-aimé, regardez pas le voisin. Pensez pas au frère un tel ou à la sœur un tel. Pensez à vous. Pensez à vous là-dedans. C'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que il y a une fausse croyance dans l'Église. Qui s'est implanté et qui porte à croire que les œuvres de la chair est seulement du péché à caractère sexuel, ou est seulement des œuvres ou des façons de penser qui touchent la sensualité et l'immoralité. Mais Paul va beaucoup plus loin, la Bible va beaucoup plus loin que ça. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si tu as des jalousies, tu es dans la chair. Si tu as de la colère, si c'est la colère qui contrôle ta vie, OK, monsieur, madame colérique, ça fait partie des œuvres de la chair, bien-aimé. OK? Ça fait partie des œuvres de la chair. Donc, il y a pas de péché sexuel là-dedans, non, mais c'est au même niveau, c'est dans la même catégorie, c'est dans la même classe des œuvres de la chair. Si tu as une envie plus forte que toi pour tout ce qui est le matérialisme. Si tu te convoites constamment ou si tu es envieux, jaloux d'un bien-aimé, de ce qu'un bien-aimé possède comme maison, comme voiture, même comme épouse ou comme époux. Si tu es à l'origine de disputes et si tu dis, oh, j'ai déjà entendu ça une fois, tu sais, il y a tout le temps des disputes autour de moi. Je suis tout le temps impliqué dans des disputes. Puis c'est comme si je suis la victime de tout ça. Je dis, allô? Il faut se poser des questions. Si on est constamment dans des disputes familiales, si on est constamment dans des disputes au travail, si on est constamment dans des disputes même dans l'église, il faut se poser des questions, bien-aimé. C'est pas juste l'autre. Il faut se regarder soi-même. Et l'ivrognerie, les excités, tous les autres types d'acceptables. Donc, tu sais, c'est large. Mais c'est important qu'on voit ça parce que ça va nous être utile un peu plus tard. Donc, voilà pour les œuvres de la chair. Allons maintenant à l'être spirituel. L'être spirituel, eh bien, c'est celui qui passe de la mort spirituelle à la vie en Christ. Donc, c'est la personne qui reçoit Christ. C'est la personne qui se donne à Christ. Qui passe des ténèbres à la lumière, qui s'identifie avec Christ, qui fait de Christ son sauveur et seigneur personnel. Et donc, on parle de la nouvelle naissance, qui est appelée enfant de Dieu. Donc, l'être spirituel, c'est celui qui expérimente la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, un changement spirituel. On change de condition spirituelle lorsqu'on vient au Seigneur. Okay? Le changement est plus spirituel que physique, mais il y a quand même un impact en ce qui a trait le physique, l'apparence. Et là, pour ce type de personne-là, j'ai pris bleu. Donc, oublions pas, pour la chair, j'ai pris rouge. Pour le spirituel, j'ai pris bleu parce que ça va, vous allez voir après. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la chair? Ben, la chair, elle est crucifiée avec ses passions. Dans Galates 5, 24, dit ceux qui sont attachés à l'esprit, ceux qui marchent selon l'esprit, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ben, eux autres, ils vont crucifier, donc ils vont renoncer à ces passions-là. Ces passions-là, ou la chair va toujours être là, tant aussi longtemps que nous ne serons pas transformés. Tant si longtemps que nous serons dans ce corps mortel, la chair sera là, mais la chair, elle a une place. Et sa place, elle est à la croix. Donc, d'être crucifié avec ses passions. Et ça, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait pour moi. C'est moi qui prends cette décision-là à tous les jours de crucifier la chair. Donc, crucifier la chair, c'est être crucifié, donc renoncer à tout ce qui s'oppose à à Dieu et tout ce qui s'oppose à ce qui pourrait s'opposer à la volonté de Dieu dans ma vie. Okay? Au niveau du corps, bien la Bible dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc le corps vit cette transformation-là où est-ce que elle passe d'être un instrument d'iniquité, un instrument pour le péché, à être la maison de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Jésus purifie ce corps. Jésus sanctifie ce corps. Jésus nettoie ce corps pour en faire sa maison, pour faire le temple du Saint-Esprit. Là, je ne peux pas rentrer en détail, mais dans l'Ancien Testament, le temple en Israël était le lieu le plus important de toute la société, de toute la culture, de toute l'histoire, de toute la nation. Et que Jésus, dans le fond, amène ça, le transpose. Le transpose plus dans une bâtisse. Oui, par exemple, cette bâtisse, elle a été dédiée, consacrée au Seigneur. Elle a un rôle à jouer dans la communauté. Mais le temple du Saint-Esprit, c'est toi et moi. Et donc, partout où nous allons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous amenons donc pas seulement la présence de Dieu, parce que dans le temple, ce n'était pas juste la présence de Dieu, c'était la gloire de la présence de Dieu qui venait habiter. Donc, partout où ce que je vais, c'est la gloire de la présence de Dieu que j'amène avec moi. C'est la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu. Donc, voilà pour le corps. Au niveau des émotions, Romains chapitre 14, verset 17 nous dit que, bon, dans le fond, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie. Donc, je ne suis plus esclave du péché. Aujourd'hui, je jouis d'une paix, d'une joie qui est parfaite et d'une paix qui est profonde et qui n'est même pas de ce monde. La paix que j'ai, c'est la paix que Christ me donne via son pardon, via le sacrifice. Et donc, la paix qu'il me laisse, ce n'est pas la paix qu'on retrouve dans le monde. C'est une paix qui surpasse tout raisonnement, qui surpasse tout entendement. Et c'est une joie qui, même au milieu des épreuves, me relève, me donne de la force parce que la joie du Seigneur est ma force. Donc, j'ai cette force même au milieu des épreuves, même au milieu des tribulations qu'on aura dans le monde. Mes émotions sont dans la paix et sont gouvernées par la paix, par la joie de Dieu. Ça, c'est l'aide spirituelle. La pensée, elle, l'intelligence est transformée. Romains chapitre 12, verset 2, lorsqu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par le renouvellement de votre pensée. Cette pensée, elle est renouvelée. Elle ne pense plus selon le vieil homme. Elle pense plus selon l'homme charnel lorsque nous étions dans le péché. Elle pense plus de cette façon-là. Notre pensée, elle est changée pour penser selon Christ, pour avoir la pensée de Christ et pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, pur et parfait. Donc, il y a une transformation au niveau de la pensée aussi. Donc, une transformation au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des pensées et au niveau de la volonté. Parce que mon désir, ma décision, elle n'est plus gouvernée par le péché, par la chair. Elle est gouvernée par l'esprit, elle est dirigée par l'esprit. Et parce que je décide de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole, de demeurer dans son amour, alors je porte du fruit. Alors il y a le fruit de l'esprit. Donc l'être spirituel, c'est celui qui porte le fruit, c'est celui qui va produire ce qui est agréable au Seigneur. Et donc voyez les éléments ici. Il y a vraiment une transformation. Si vous doutiez jusqu'à aujourd'hui que vous avez changé, ben regardez dans la parole de Dieu. Là où est-ce que Dieu nous amène, là où est-ce que Dieu t'a placé aujourd'hui. Bien sûr, l'être spirituel, c'est l'être idéal. Okay? On n'est pas. On est, ça ne veut pas dire qu'au jour 1, on est rendu là et que tout ça, on le vit parfaitement. Non. Et que ça veut dire qu'il n'y a plus de péché. Non. On continue à commettre des péchés. On continue à prendre des mauvaises décisions. Mais nous ne sommes plus contrôlés par cela. Notre vie n'est plus identifiée par la chair, ni par le péché, mais par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on pêche, on revient vite. Et notre désir, malgré notre imperfection, est toujours de plaire à Dieu et de vivre une vie qui est agréable au Seigneur. Okay? Je veux juste clarifier ça parce que je ne suis pas en train de dire que là, il faut que journée 1, il faut qu'on soit là, okay? Au niveau de l'esprit. Non, c'est un processus, c'est une transformation. Jésus même le dit, celui qui porte du fruit, celui qui est en moi, porte du fruit, il sera émondé pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc, il y a un travail qui se fait en nous. De préparation, de sanctification même, pour que nous puissions porter plus de fruits. Okay? Donc il y a vraiment cette distinction-là, cette différence-là. Mais je veux que vous voyez bien que ce soit clair au niveau de la pensée, mais surtout au niveau des émotions. Au niveau des émotions, bien-aimés. Est-ce que c'est l'insécurité qui te contrôle? Est-ce que c'est la peur qui te contrôle? Est-ce que ce sont les jalousies? Hein? Est-ce que c'est l'insécurité au niveau une estime de toi qui est pauvre, une faible estime de toi? Bien-aimé, ça, c'est pas vivre selon l'esprit. Parce que selon l'esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la justice. Maintenant, l'être charnel, c'est quoi? Paul, à un moment donné, parle aux Corinthiens, puis lui dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme animal, donc selon l'homme naturel? Paul s'adresse ici à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des inconvertis. Il parle à l'église de Corinthe, donc à des saints. Des gens qui ont vécu une transformation spirituelle. Des gens qui ont accepté Christ dans leur vie et qui ont pris la décision de marcher avec Christ. Et là, Paul dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, notez une chose. Il n'a pas dit, puisqu'il y a parmi vous de l'impureté sexuelle, l'immoralité, non. Il a dit parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, vous êtes charnels. Puis vous marchez comme l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. Vous marchez comme la personne qui est encore sous l'emprise du péché et sous l'emprise de la chair. Donc, l'être charnel, c'est une personne chrétienne. C'est une personne qui connaît Christ, qui a été sauvée. Mais qui vit selon la chair. Donc, qui vit comme auparavant. Qui vit comme quelqu'un qui n'a pas été transformé par Christ. Et là, on a vu que on a pris une couleur pour ceux qui sont dans la chair, on a pris le rouge, pour ceux qui sont dans l'esprit, on a pris le bleu. Donc, Le bleu et le rouge, ça donne quoi? Ça donne du violet, selon Google, OK? Fait que là, je suis allé chercher une couleur, j'ai essayé de mettre ça pour expliquer, pour démontrer, disons, le plus clairement. Un être charnel, c'est quelqu'un qui vit selon la chair, donc qui est contrôlé, guidé par les désirs qui sont opposés à Dieu, et donc qui affectent tout le reste, même si cette personne-là est chrétienne. Donc, même si cette personne-là sait que le corps est son temple du Saint-Esprit, qu'il y a la joie, la paix comme émotion, que sa volonté devrait être vers ce qui est s'affectionner aux choses de l'esprit, que sa pensée devrait être renouvelée, et donc que l'esprit aussi devrait être en communion croissante avec le Seigneur. Mais ça donne cette espèce-là d'image. Où est-ce que t'es ni rouge, t'es ni bleu, t'es violet. Au niveau du corps, des émotions. L'esprit est là, mais l'esprit est faible comparativement à la chair. L'esprit a une très petite place. L'esprit a de temps en temps une petite manifestation. Lors de la conférence annuelle, ou quand c'est des dates importantes pour l'Église, oh, l'Esprit est là. Mais après ça, pouf, la chair reprend le dessus, puis ça donne le type de vie qu'un être charnel a. Au niveau de l'Esprit, il y a une obstruction avec Dieu. Donc, dans la communion avec Dieu, il y a constamment l'interférence. Bien des fois, ça m'arrive à la maison. Et Carmen aussi, on est en télétravail, donc on travaille de la maison. Et donc, on se connecte via des plateformes de communication en ligne pour avoir des rencontres et tout ça. Et à chaque jour, mon épouse, ça lui arrive plus à elle, la connexion tombe. Parce que mon problème de réseau, parce que le. Bon, ceux qui connaissent un peu, le VPN tombe, blablabla. Et c'est frustrant. Et c'est frustrant parce que on est en pleine réunion. Des fois, c'est des réunions très importantes avec le patron, avec d'autres gens. Et là, plouf, la connexion tombe. Et là, il faut se reconnecter. Et ça arrive aussi à mes collègues. On est là dans des rencontres. Et là, tout d'un coup, plouf, il y en a un qui disparaît. Quelqu'un est en train de parler et tout à coup, son image reste figée pendant 10 secondes. Puis là, tout le monde rit parce que là, on sait que la personne s'est déconnectée. C'est drôle, mais c'est frustrant. Maintenant, imaginez le Seigneur qui est en communion avec vous, qui veut vous partager des choses, qui veut avoir cet échange avec vous. Et à chaque fois, s'il y a de l'interruption, à chaque fois, l'écran gèle. À chaque fois, pff, la communication est obstruée par quelque chose. Dieu est patient, hein? Dieu est vraiment gentil, honnêtement, avec nous, parce que il y a constamment de l'obstruction avec Dieu à cause de la chair. Au niveau du corps, il y a des problèmes parce que il y a le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le corps appartient au Seigneur. Et que quiconque détruit le temple, Dieu détruira également. Donc il y a une destruction qui s'opère. Il y a des problèmes physique. Il y a des maladies qui se manifestent. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais que nous vivons encore comme dans le péché. Que nous utilisons ce que Dieu a voulu consacrer, dédier pour lui, nous le prenons et nous l'utilisons pour satisfaire notre propre chair, notre propre passion. Maintenant, je veux dire quelque chose. C'est pas parce que quelqu'un est malade que cette personne-là est dans le péché. OK? Que ce soit clair. C'est pas parce qu'une personne il a découvert un cancer ou il a eu telle maladie que cette personne-là est dans la chair, là. C'est un charnel, là, puis sûrement c'est un jugement de Dieu sur sa vie. Non, 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 non. Je n'ai pas dit cela, je n'ai jamais eu cette prétention-là. Mais Dieu est souverain dans sa volonté, il sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Mais une chose est sûre, une chose est sûre. Une vie dans la chair ou l'être charnel va avoir des problèmes dans son corps. parce que il y aura un disconnect là aussi. Okay? Au niveau des émotions, ça va être l'instabilité. Il va y avoir tantôt de la peur, tantôt de la joie, tantôt de la dépression, tantôt un petit peu de paix, tantôt de l'inquiétude et de l'angoisse, et tantôt un peu moins d'angoisse, un peu moins de stress, mais là, on va retomber dans la peur et dans la colère. Et tantôt, on va avoir une petite pointe de tendresse, une petite pointe d'amour, mais rapidement, on va retourner dans les émotions de l'achat, les œuvres de l'achat. Et vous savez quoi? Ce va-et-vient-là va faire qu'on se sente coupable. Et ça, c'est un autre élément, c'est une autre émotion qui vient jouer lourd, lourd sur la vie des chrétiens. Il y a combien de chrétiens qui se sentent coupables parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur? Combien de chrétiens se sentent coupables parce qu'ils sont dans ce yo-yo-là? Ils sont en haut, ils sont en bas, ils sont en haut, ils sont en bas. Comme un yo-yo. Il y a une instabilité. Il y en a qui le savent. Ils savent. Ils savent quand ils s'en vont dans le péché. Ils savent quand ils tombent dans la chair. Ils savent lorsqu'ils tombent de la grâce, lorsqu'ils marchent plus selon l'esprit, mais que là, ils s'en vont dans la chair et qu'ils vivent selon la chair. Ils le savent. Et ça amène une très grande culpabilité sur leur vie. Et donc, c'est une nouvelle émotion que l'être charnel vit et aussi emmagasine en lui profondément la culpabilité. Au niveau des pensées, bien c'est une pensée qui est étrangère à Dieu, donc qui a de l'inimitié contre Dieu. Ça, on va le voir dans plus loin là, mais la pensée même, elle est transformée, mais en même temps, elle est déchue. Parce qu'elle est affectionnée aux choses du monde, aux choses de la chair, mais en même temps cherche des fois à s'approcher de Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Et au niveau de la volonté, bien c'est un déchirement entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, entre ce qui est du domaine de la chair et du péché, et ce qui est du domaine de l'esprit de Dieu. Donc, l'être charnel est une vie selon la chair. Et vous verrez dans la Bible, Paul parle souvent de vivre de ceux qui sont selon la chair. Donc, en obéissance à la chair. Donc, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, mais je continue à être obéissant au péché. Je continue à vivre soumis à la chair, donc à tout ce qui s'oppose. Et à laisser libre cours à tout ce qui s'oppose à Dieu et à sa volonté dans ma propre vie, là. Je ne parle pas de la vie du voisin ni de l'Église. Je parle de ma propre vie. Vous voyez que ça, c'est un peu n'importe quoi, c'est disparate un peu. On n'a plus cette intégrité-là. Et une des choses, l'être charnel ne peut pas être intègre dans le Seigneur. Parce qu'au niveau de son corps, de ses émotions, de sa volonté, de sa pensée, de son esprit, c'est une lutte constante. C'est une instabilité constante. Et je vous dirais que nous tous chrétiens, nous trouvons entre ce stade-ci et le stade de l'être spirituel, donc la stature parfaite de Christ. L'important, c'est d'être dans ce processus-là, justement, de transformation. Et de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que l'être charnel ou la condition d'être charnel, Dieu l'aime pas. Et on voit ici, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Considérez une chose. L'affection de la chair est inimitié. Donc, il ne peut pas avoir d'association. Il y a même confrontation. Inimitié contre Dieu. C'est clair, la position de la chair, elle est là et elle ne va jamais changer. Tu ne pourras jamais convertir ta chair. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le pourra jamais. Un élément que je voudrais apporter ici par rapport à affection, le terme grec c'est phronema, qui veut dire ce que quelqu'un a dans l'esprit et les pensées de cette personne-là. Parce que dans certaines versions, on ne dit pas l'affection de la chair, mais on dit la pensée de la chair ou l'esprit de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, je voulais juste amener cette précision-là parce que l'affection, oui, c'est une affection, mais on parle encore de choses spirituelles. On parle encore de la pensée de cette personne-là. Donc, c'est une personne qui, spirituellement, est vivante. Mais ce qu'elle a dans l'esprit, ce qu'elle a dans la pensée, c'est de satisfaire sa chair plutôt que satisfaire la volonté de Dieu et d'être agréable à Dieu. Et également, on retrouve de sérieuses réprimandes dans la Bible. Paul dit aux Galates, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Avez-vous perdu la raison divine? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux être chrétien et je peux, tu sais, marcher avec le Seigneur, à un moment donné, me dévier. Je peux à un moment donné revenir en arrière. Il est possible de revenir en arrière. Et c'est là où est-ce qu'il faut faire attention, bien-aimé. Parce qu'on peut commencer par l'esprit et tout à coup, par des décisions que nous prenons. Et des fois, c'est pas comme drastique qu'on fait un 180 degrés, non. Ça prend une longue courbe. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on est loin du plan de Dieu. On est loin de ce qu'on devrait être avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de vivre par l'esprit, de vivre selon l'esprit, et qu'on a juste laissé aller la chair et on a vécu selon la chair. Et encore là, je pense qu'il faut, pour certains chrétiens, il faut redéfinir ça, parce que c'est pas juste le péché sexuel, là. Je ne suis pas en train de parler de moralité sexuelle. Il y en a qui disent, bah, tu sais, j'ai pas de mauvaise pensée sexuelle, donc je suis pas dans la chair. Non, il y a des jalousies, de l'insécurité, vous manquez de foi, vous manquez de pardon. Vous êtes dans des querelles, vous êtes envieux, vous êtes de la colère, c'est de la chair. C'est de la chair. Ça, c'est de la chair pure et dure. C'est de la chair, bien-aimé. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité, selon le vide, la vanité, le futile de leur pensée. Donc, un avertissement que Paul aussi a fait aux Éphésiens, de ne plus vivre, de ne plus marcher comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui marchent selon le vide de leurs pensées et de leurs émotions. Et Jacques même dit, mais vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, vous priez, mais même tout ce qui... le spirituel. L'aspect spirituel de la prière, de l'adoration, ça se passe pas bien. Il n'y a aucun effet, il n'y a aucun fruit. Ça vaut zéro. Parce que tout ce que vous faites, vous le faites dans le but de satisfaire vos passions, les passions de la chair. C'est-à-dire que même quand tu viens à l'église, même ce que toi, tu associes au service ou à l'œuvre de Dieu, tu l'utilises pour assouvir ta chair. C'est possible d'être fait. On peut servir le Seigneur. OK? On peut prêcher. Un prédicateur peut être en avant et en train de prêcher et peut avoir les dons de l'esprit en train de se manifester. Et c'est un homme charnel. C'est un homme charnel. C'est un homme qui a des problèmes avec la chair. Et que c'est un homme qui vit selon la chair. Oui, totalement. Donc, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être un ami du monde sera ennemi de Dieu. Wow, ça c'est fort. Comment est-ce que moi, qu'est-ce qui me reste à moi si je suis enfant de Dieu mais que je me place dans une position d'inimitié avec Dieu? Il va avoir des conséquences. il va avoir des résultats de cette prise de décision-là et de ce style de vie-là. Donc, j'espère que vous avez compris un peu plus les trois types de personnes, l'homme na naturel, l'homme animal, l'être humain, l'animal, l'être spirituel et l'être charnel et les différences assez profondes qu'on retrouve dans chacun de ces types de personnes-là. Maintenant, si on revient au figuier, Jésus prend la parole lorsqu'il s'approche du figuier qui avait des feuilles et se rend compte qu'il n'y avait pas de fruits. Jésus porte un jugement. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Vivre selon la chair, c'est la mort. Et ça, vous le trouverez dans Romains chapitre 8, dans Galates chapitre 5. La résultante, c'est la mort, de vivre selon la chair. C'est-à-dire, peut-être pas que tu vas mourir, mais il ne va pas avoir de fruits. Tout ce que tu vas entreprendre va échouer. C'est ce type de mort-là. Tout ce que tu prends aura une fin, va avoir une fin, et parfois la fin sera abrupte. Il n'y a rien que tu vas pouvoir mener à terme. Ça va être très difficile. Vivre sur la chair, c'est vivre sous un jugement. Sous un jugement. Vous avez vu les réprimandes. Et on pourrait en parler dans long et en large encore sur qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la parole dit par rapport à l'être charnel. C'est vivre sous un jugement. Lorsqu'on parle que le corps vit des choses et qu'il y a une destruction aussi du corps, bien c'est relié aussi au jugement qui vient avec le fait de vivre selon la chair, d'être chrétien mais de vivre selon la chair. Et la vie selon la chair, c'est n'avoir rien à offrir au Seigneur. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que, comme je l'ai dit au début, je peux connaître tout de l'Église. Je peux connaître la Bible. Je peux aller devant, prêcher, annoncer l'Évangile. Je peux être ici en train de vous enseigner la parole de Dieu. Et je peux être en train de vivre selon la chair. Et aux yeux de Dieu, j'ai aucun fruit à lui offrir. Il est possible de servir Dieu et de vivre dans la chair? Oui. La réponse est oui. Yes. Si. Da. Je ne sais pas dans quelle autre langue je pourrais le dire, mais la réponse est oui. Il est possible de servir Dieu et de vivre selon la chair. Totalement. Mais la vie selon l'esprit, premièrement, c'est de crucifier la chair. C'est de renoncer à tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ma vie. C'est d'y renoncer tout simplement. Vivre selon l'esprit, c'est de demeurer en lui, dans sa parole, dans son amour. Et vivre selon l'esprit, c'est porter du fruit, le fruit de l'esprit. Et quel est ce fruit? Eh bien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance qui est le contrôle de soi. La bénignité, c'est l'absence de malice. Bien-aimé, tu sais maintenant où peut-être mieux où tu te situes par rapport à tout cela. Mais c'est important d'aller à l'essentiel. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, parce que Dieu veut qu'on porte du fruit. Et celui, le sarment qui ne porte pas de fruit sera retranché. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Celui qui ne porte pas de fruit sera retranché. Maintenant, il y a beaucoup de passages bibliques qui ont été, ils n'ont pas été lus, mais ils ont été énumérés. Je vous encourage à vous-même maintenant, dans un angle, une perspective personnelle, de faire votre propre cheminement avec le Seigneur, de vous présenter devant Dieu et de savoir, Seigneur, où est-ce que je me situe dans tout ça? Est-ce que je vis selon l'esprit ou est-ce que je vis selon la chair? Voilà, vivre selon l'esprit, pour nous, ça ne veut pas dire qu'on commet plus de péchés. Ça ne veut pas dire que on tombe pas des fois dans une autre affaire. Mais ça veut dire que notre but sincère dans notre cœur, c'est de plaire à Dieu. Et donc, on se sent inconfortable avec. On se sent mal lorsqu'on sait qu'on a dévié, lorsqu'on sait que nous avons péché. On se sent mal et on revient vite au Seigneur. Et on cherche à s'accrocher davantage à lui, à demeurer en lui, et à demeurer dans sa parole, et à demeurer dans son amour. Bien-aimé, la chair ouvre la porte au diable. La chair ouvre la porte au péché pour reprendre le contrôle de votre vie. Même en étant chrétien, même en connaissant la Bible par cœur, même en dirigeant la louange, même en étant responsable de département, même en étant pasteur. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Demandons au Seigneur de nous parler. Et si on doit redresser la chose, comment est-ce que par l'Esprit, nous pourrons redresser la chose? Ce qui est important, bien-aimés, c'est de porter du fruit. C'est porter du fruit. Et les fruits n'est pas dans les œuvres. Les fruits est en toi, est en moi. Est en moi. Le fruit n'est pas dans les feuilles. On va pouvoir tromper tout le monde, mais on ne pourra pas tromper le Seigneur. Le Seigneur s'attend à avoir du fruit. Quel fruit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce que Dieu recherche en toi. Voilà l'œuvre de Dieu dans ta vie. Vont t'amener là, ce que tu puisses produire. Plus de fruits, parce que tout ça reflète Christ. Ce n'est pas les œuvres. Les gens courent après les œuvres. Le don ici, le don là, le ministère ici, le ministère là. Où est le fruit? C'est le fruit qui parle, bien-aimé. C'est le fruit. Ce n'est pas le don, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas si le ministère est international, intergalactique, ou je ne sais pas. C'est le fruit qui parle, bien-aimé. Dieu recherche le fruit. Soit un figuier qui porte beaucoup de fruits, soit un sarment qui porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Donc, pour terminer, bien, nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons vu que nous sommes le figuier appelé à donner du fruit quand le Seigneur en a besoin. Nous avons vu qu'il y a trois types de personnes, le naturel, le spirituel et le charnel. L'être naturel est spirituellement mort. C'est une vie dans le péché, dans la chair. L'être spirituel, lui, de son côté, vit cette nouvelle naissance, devient enfant de Dieu, et il est maintenant vivant et vivant pour Dieu. Et donc, il mène une vie selon l'esprit, ce qui veut dire que la chair, elle, de son côté, elle est crucifiée, elle est renoncée. Et au niveau de l'être charnel, eh bien, c'est un homme, une femme née de nouveau, mais qui vit selon la chair, qui prend la décision de continuer à vivre comme les païens. Et ce qui est clair, c'est que Dieu n'aime pas cette condition-là. Il y a énormément de paroles et de réprimandes, d'avertissements aussi là-dessus dans la parole de Dieu. Et vivre selon l'esprit, c'est quoi? C'est crucifier la chair, c'est demeurer en lui, dans sa parole, dans son amour. Et vivre selon l'esprit, c'est là où est-ce qu'on porte du fruit. Le fruit de l'esprit. Donc, bien-aimés, soyons un vrai figuier qui porte du bon fruit pour le Seigneur. Lorsque le Seigneur vient me voir, lorsque le Seigneur regarde à ma vie, regarde à ta vie, qu'il puisse vraiment trouver le fruit qu'il recherche, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton enseignement et ta parole qui est riche et profonde. Seigneur, nous avons vu des choses qui touchent le plus profond de notre être aujourd'hui. Et donc Seigneur, nous devons nous approcher de toi, Seigneur, en toute humilité, et de demander, Seigneur, à ce que tu nous éclaires, tu nous illumines. Parce que nous avons besoin, Seigneur, de vivre pleinement dans l'esprit. Seigneur, vivre par l'esprit, c'est pas de parler en langue 24 heures sur 24 ou de vivre des expériences mystiques, Seigneur, ou charismatiques, ou de sauter en haut et de sentir, Seigneur, des vibrations dans le corps. Non, Seigneur, vivre dans l'esprit, c'est d'être obéissant à ta parole. C'est de demeurer en toi. Seigneur, c'est de demeurer dans ton amour et c'est de refléter ces choses-là dans la vie. Je te demande, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, de les garder, Seigneur Jésus, de tout mal. Que ta main, Seigneur, soit sur eux, que ta parole fasse effet dans leur vie, de sorte qu'ils puissent, Seigneur, être des hommes et des femmes qui soient spirituels et qui marchent, Seigneur, selon l'Esprit, qui marchent, Seigneur, par l'Esprit et qui portent beaucoup de fruits pour toi. Seigneur, que nous soyons dans ce temps de pandémie des hommes et des femmes qui portons, Seigneur, beaucoup de fruits pour toi, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alors, j'espère que cette parole a été d'instruction pour vous, que vous allez pouvoir également l'approfondir personnellement, prier là-dessus pour que Dieu vous montre davantage, pour que Dieu vous parle à vous personnellement, où est-ce que vous vous situez. Et comment est-ce que vous pouvez marcher, aller selon l'esprit, porter du fruit pour la gloire de son nom. Je pense qu'on vit une belle opportunité maintenant de redresser les choses. Dieu est bon. Dieu aurait pu nous dire, ben là, tu sais quoi, j'en ai fini avec vous, je ne veux plus rien savoir de vous. Vous êtes, la communication coupe tout le temps. Non, c'est fini, je m'en vais voir ailleurs. Non, Seigneur est là. Seigneur est là, Seigneur est fidèle. Et donc, profitons de cette fidélité-là de Dieu. Pour lui demander de faire son travail dans nos vies. On a tous besoin, moi-même incluant, on a tous besoin que le Seigneur agisse et œuvre dans nos vies. Alors, que Dieu vous bénisse, bonne continuité de la semaine. Pour ceux qui suivent les bénédictions matinales, rendez-vous demain matin, 8h30. Sinon, eh bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et portez du fruit pour la gloire de son nom. Au revoir. Ah, shalom. C'est vrai, je vous dis shalom. À la prochaine, bye bye.